Merci d'être à l'écoute de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est une première finale qui se joue ce soir à l'Euro de football. Affiche digne d'une finale, en tout cas Belgique-Portugal. Un match qui a de quoi faire saliver les fans du ballon rond aux quatre coins de l'Europe. Le football, passion absurde et débordante que partagent des milliards d'hommes et de femmes à travers le monde. C'est ce que rappelle votre dernier ouvrage, Olivier Guèze. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous, essayiste, écrivain, prix Renaudot en 2017 avec la disparition de Joseph Mengele. Vous venez donc de publier Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire. C'est une passion absurde, Olivier Guèze, au-delà d'être dévorante, le football ?
Une passion est toujours un peu absurde et toujours un peu dévorante. Si elle est mesurée, ce n'est pas une passion. Oui, donc il y a cette dimension absurde, notamment dans le football, puisqu'à partir d'un jeu d'enfant que peuvent pratiquer vraiment des bambins de 4-5 ans, on est passé à une gigantesque industrie planétaire avec des enjeux financiers, politiques, géopolitiques, économiques, médiatiques, absolument gigantesques. Et donc il y a quand même une dimension absurde, tout ça à partir d'un ballon qu'on doit pousser dans des cages.
Une passion qui vous anime, en tout cas depuis la plus tendre enfance et que vous décrivez dans ce livre. Vous décrivez aussi le football comme un trait d'union sur une planète globalisée, je vous cite. Pourtant, à l'occasion de cet Euro qui se tient dans 11 villes de 11 pays différents en Europe, justement pour célébrer l'union d'un continent autour du sport, on s'est rendu compte que ce trait d'union, il est très fragile quand viennent s'y greffer des différents politiques ou des questions de société.
Ça reste quand même un trait d'union dans la mesure où toute l'Europe a les yeux rivés sur son téléviseur et finalement c'est un événement que partagent tous les Européens. Donc ça reste un trait d'union.
Mais après, il y a des tensions. Aussi.
Bien sûr, il y a des tensions en Europe aujourd'hui. Tout le monde n'a pas la même vision politique, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et ces tensions se retrouvent autour du terrain, voire sur le terrain quelquefois. C'est pas la première fois. Et à la rigueur, mieux vaut que ça se joue sur un terrain de football qu'ailleurs, par exemple. Mais bien sûr qu'il y a des tensions.
Tous ces débats autour de la loi hongroise, notamment réprimant la représentation de l'homosexualité. Parce que sur un terrain de foot, c'est ce que vous dites aussi dans ce livre, se projettent de très nombreux débats. Débats sur l'identité en France, par exemple, à chaque Marseillaise ou à chaque sélection. Débats sur la question raciale au Brésil. Vous parlez aussi des ambitions politiques de régimes autoritaires comme l'Argentine des années 70 ou le Qatar, finalement, aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Je veux dire, dans la mesure où les enjeux sont gigantesques, dans la mesure où le football est de très loin le sport le plus populaire, il est logique que les pouvoirs politiques veuillent mettre la main sur le ballon ou se servir du ballon. Mettre la main sur le ballon dans le cadre de régimes plus ou moins autoritaires, voire totalitaires, et profiter, comme l'avait fait le président Chirac en 98, qui ne connaissait absolument rien au football.
Oui, on se souvient qu'il avait du mal à scander les noms des joueurs le soir de la finale.
Oui, et puis il avait même confondu la Coupe de France et la Coupe du Monde. Enfin, tout ça n'avait aucune importance pour lui. Simplement, il s'était rendu compte qu'il y avait un élan gigantesque dans le pays et qu'il eût été absurde de ne pas en profiter. Après, les gens ne sont pas naïfs. Quand un pays va bien, le pouvoir politique peut profiter. Disons que c'est une touche en plus. En 98, la France allait beaucoup mieux qu'en 2018. Mais en 2018, la victoire à la Coupe du Monde n'a pas profité à Emmanuel Macron. Très rapidement, on est passé à l'affaire Benalla, ensuite aux Gilets jaunes. On ne peut pas dire que la France ait surfé sur la victoire en 2018 comme elle l'avait fait en 98.
Donc, le football n'est pas tout puissant.
Le football n'est pas tout puissant. Le football, avant tout, reflète les débats d'une société ou les tensions entre certains États, bien évidemment.
Tiens, justement, je voudrais qu'on accueille à présent Olivier Guèze, le chef du service des sports d'Europe 1, qui est en ligne avec nous depuis Bucarest, en Roumanie. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir à tous.
Vous qui nous faites vivre cet Euro multi-pays avec les journalistes du service des sports, Bucarest, lieu du prochain match des Bleus, évidemment, demain. Vous avez déjà parcouru, Jean-François, trois pays depuis le début de la compétition, Allemagne, Hongrie, Roumanie. Vous les mesurez, ces différences de ferveur, de signification aussi, de ce que veut dire le football quand vous passez comme ça de nation en nation ?
Oh bah oui, même si c'est un petit peu superficiel parce qu'on ne reste que quelques jours, mais déjà parce qu'on va d'ouest en est dans ce périple que l'équipe de France nous propose. Donc à Munich, en Allemagne, évidemment, il y a une question de fierté nationale, mais c'est quand même un pays qui est très assis, qui est très sûr de ses structures. Donc le foot, j'allais dire, est une passion, mais il sait aussi rester à sa place. C'est aussi un divertissement, une occasion de sortir, de profiter d'un bon moment ensemble. Quand on passe la frontière et qu'on arrive en Hongrie, là, c'est un petit peu différent puisque Viktor Orban Erdogan a fait du football une affaire de fierté, une affaire géopolitique. Hein, Olivier Guez le disait, il souhaite accueillir non seulement le championnat d'Europe, mais peut-être un jour les Jeux Olympiques aussi. Et le public est un petit peu formaté pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une fierté nationale à aller rechercher, parce que dans les années 50, la Hongrie était un grand pays de foot, elle ne l'a plus été, elle essaie de le redevenir avec ce pouvoir souverainiste. Donc oui, évidemment, la différence est majeure. Et puis ici, en Roumanie, c'est un petit peu moitié-moitié, parce que c'est un pays qui est très latin à l'est de l'Europe, et on est surtout ici, pour l'instant, ce que je ressens, très heureux d'accueillir l'Europe, et en particulier l'équipe de France.
Vous avez longtemps vécu, justement, Jean-François, en Roumanie, vous avez couvert aussi des rencontres de football en Afrique, au Japon pour des Coupes du Monde. Quel lieu, quel rapport entre football et société vous ont le plus marqué pendant ces années ?
Ah ! En Afrique, les pouvoirs ont eu tendance à profiter totalement du football pour des raisons politiques, de réélection ou d'influence, à peu près quel que soit le pays qui était retenu pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est sûr. Au Japon et en Corée, j'ai vu une Coupe du Monde qui était intelligente géopolitiquement parlant, parce qu'elle a contribué à améliorer les relations entre deux pays qui avaient justement des relations exécrables dans les années 30, 40, 50. Donc, à chaque fois ou presque, dans les compétitions de foot sportif, mais de foot en particulier, il y a un filigrane politique, il y a un filigrane diplomatique aussi qu'on essaie de toucher. Et Michel Platini avait voulu, pour les 60 ans du championnat d'Europe, que ce championnat ait lieu partout sur le continent, pour que les gens se rendent compte qu'ils font partie de la même culture aussi. C'est plus ou moins réussi, mais je pense que l'initiative était louable.
Je reviens à vous, Olivier Guez. De manière beaucoup plus universelle, le foot, c'est aussi, et c'est ce que raconte votre livre, souvent des souvenirs d'enfance, de premières images, une première fois au stade aussi. Quels sont les moments qui vous ont marqué et attaché au football, Olivier Guez ?
Les événements dans un stade, par exemple ?
Ou des éléments, je ne sais pas, des premiers souvenirs télévisés, vous en parlez aussi dans cet ouvrage, dans ce recueil ?
Il y a des souvenirs plus ou moins récents. Il y a mon voyage en Argentine en fin 19, donc juste avant la pandémie, quand on pouvait voyager facilement encore. Par exemple, le match que j'avais vu à la Bombonera, le stade de Boca Juniors, est quelque chose qui est absolument gravé dans ma mémoire. Donc là, c'est très récent, et quelque part, j'ai réagi à la Bombonera comme si j'avais 8 ans. C'est-à-dire que le spectacle est tellement total, il y a une telle légende autour de ce club, autour de ce public, par exemple. La Coupe du Monde 2018 m'a beaucoup marqué. Alors moi, je suis très philo sud-américain, donc j'ai tendance à mettre l'accent sur les équipes sud-américaines, mais les publics uruguayens ou argentins qui s'étaient déplacés pour eux vraiment jusqu'à l'autre bout du monde étaient magnifiques. Et puis si on remonte beaucoup plus loin, oui, c'est ma découverte du stade qui date de 1982. On est à Strasbourg, au stade de la Méno. Et là, c'est un grand événement. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je me souviens vraiment de la première fois où je grimpe l'escalier. J'arrive sur les gradins du stade de la Méno et je découvre un théâtre des rêves, c'est peut-être un peu exagéré, mais on n'est pas loin. C'est le stade de Manchester qui s'appelle comme ça, en tout cas qui est désigné ainsi. Et depuis, ça m'a marqué. Partout où je vais, j'essaie généralement d'aller au stade, non seulement parce que j'adore regarder le football, mais parce que je trouve qu'on apprend énormément de choses en fréquentant les stades. Quant à l'histoire des villes, les tensions dans les villes, les rivalités entre les villes. Et ça reste un objet de fascination.
Merci beaucoup, Olivier Guez, d'être venu
nous
retracer cette passion absurde et dévorante. Donc le football, c'est en tout cas le titre de votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire. Et merci à vous, Jean-François Pérez, chef du service des sports, auteur de La grande histoire illustrée de l'Olympique de Marseille aux éditions Hugo et compagnie. Et on vous retrouve très vite sur Europe 1, évidemment, avec les Bleus demain soir. À bientôt, Jean-François.